Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et Céline est déjà avec nous. Elle a écouté, comme tout à chacun, Olivier Véran ce matin sur l'antenne d'RTL avec Alba Aventura. Bonjour Céline.
Bonjour Pascal et bonne année.
Merci à vous. Vous avez été convaincue par Olivier Véran ?
Ah non, pas du tout.
Bah écoutez, vous allez nous expliquer pourquoi dans une seconde. Bonne année à vous également, Céline. Le rappel des titres avec Christelle.
Amplifier, accélérer, simplifier la vaccination, c'est l'objectif dévoilé ce matin sur RTL par Olivier Véran. Les personnes âgées de plus de 75 ans qui ne sont pas en EHPAD pourront être vaccinées à partir de fin janvier. Les aides à domicile et les pompiers de plus de 50 ans dès aujourd'hui. Les Français qui le souhaitent pourront s'inscrire prochainement. C'est une réponse aux critiques sur la stratégie du gouvernement, des critiques qui agacent le Premier ministre Jean Castex.
Nous sommes tout à fait déterminés pour protéger les Français, pour vacciner les Français. Tout se fera. On a un chemin que nous traçons et que nous suivons. Voilà. Donc la polémique, je le dis à tout le monde, n'aide absolument personne et n'apporte aucune solution, ni sur le terrain sanitaire, ni sur le terrain économique et social.
Jean Castex qui était en déplacement à Toulon ce matin. Le Royaume-Uni reconfine jusqu'au mois de mars. Écoles et commerces fermés, déplacements réduits au maximum. Le Français Salah Abdeslam renvoyé devant une cour d'assises avec 9 autres personnes pour les attentats de Bruxelles en 2016. La double attaque suicide avait fait 32 morts.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est formidable le Premier ministre parce que la polémique c'est juste Emmanuel Macron qui a piqué un coup de gueule dans le journal du dimanche, ce dimanche précisément, donc qu'il parle à son président de la République. La polémique évidemment qu'elle est là puisque la vaccination était manifestement en retard et on a écouté ce matin Olivier Véran et tant mieux d'ailleurs si le gouvernement change de pied si j'ose dire. Céline, c'est à vous.
Oui, bah effectivement, je pense qu'il y a un réel problème. Je ne comprends pas comment on peut être aussi en retard par rapport à nos voisins, que ce soit maintenant l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Je pense qu'il y a vraiment un problème entre la réalité concrète du terrain et les grandes décisions qui sont prises bien loin du terrain, en fait. Mais ça, c'est une problématique qui finalement est très récurrente. Le problème, c'est que quand elle impacte sur la santé de tous les Français, ça devient catastrophique.
Bon, est-ce que quand même, puisque ce matin Olivier Véran était présent dans ce studio, est-ce que vous pensez que la polémique parfois elle peut être efficace, elle peut être utile justement à faire prendre conscience en l'occurrence au gouvernement qu'il faut aller plus vite, amplifier, accélérer, simplifier, c'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire que les grands espaces de vaccination ils arrivent peut-être, il n'a pas employé le mot de vaccinodrome, mais manifestement il va avoir accélération.
Ben, il était temps, je vous dirais. Il était largement temps. Je me demande ce qui s'est passé jusque-là. Pourquoi ils n'ont pas
c'est la logistique.
La mesure.
La logistique, c'est-à-dire que manifestement, on n'a pas pris la mesure comment organiser cette campagne de vaccination.
Ah ben clairement, parce que moi je vois, on est à quelques kilomètres de l'Allemagne. Par exemple, hier sur toutes les chaînes, on a pu voir les centres dans la ville de Fribourg en Allemagne. C'est juste incroyable. Ils sont juste à côté de nous. Donc nous, on voit vraiment la différence et tout ce qui aurait pu être mis en place. Seulement, on est dans un système où effectivement une mesure est annoncée tout de suite. Il y a ou une politique ou autre. Mais je pense que fondamentalement, le problème, c'est que les choses n'ont pas été expliquées correctement aux Français. Et on est aussi, surtout, bientôt depuis un an, dans un cercle vicieux dont on ne se sort pas. On confine de manière ultra stricte et puis hop, on lâche tout le monde se recontamine. Il n'y a aucune logique, mais vraiment aucune logique. Là, je ne comprends pas pourquoi à la fin des fêtes de Noël, par exemple, on n'a pas tout simplement tout reconfiné. Alors certes, d'une manière un peu plus stricte et plus drastique, comme l'ont fait par exemple nos différents voisins, en ne laissant... Vous concentrez les populations dans un laps de temps, mais c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Et alors réduire à 18h, ben c'était quand même splendide. Comme ça, c'est-à-dire que les gens qui travaillent durant la semaine, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous se aller dans les commerces le samedi. Ce seront des vraies bombes à retardement en termes de virus.
Sauf Céline, qu'on est aujourd'hui le 4 janvier, Noël c'était le 24 décembre, donc on en est aujourd'hui à 15 jours.
Oui.
qu'a priori, il n'y a pas de reprise épidémique. C'est-à-dire que, alors sans doute faut-il encore attendre, mais il n'y a pas...
Pour le moment,
ça fait 15 jours et on nous a dit que ça pouvait être des clusters le 24 décembre. A priori, je dis bien a priori, il n'y a pas de reprise épidémique pour le moment.
Ça, on n'en est pas sûr, on ne le sait pas.
Pourquoi vous dites on ne le sait pas ? On a les chiffres ce matin.
Oui, mais un jour vous avez des chiffres comme ça et le lendemain vous en avez d'autres. Les mesures n'ont pas été prises correctement et au bon timing. C'est surtout ça le problème. Et au final, les Français se sentent perdus et maintenant ils ne comprennent pas. Maintenant d'un coup, ça y est, on va avoir les vaccins. Mais rien n'est fait concrètement, rien n'est fait sur le terrain. Nous, des ARS, on n'a encore rien eu alors que nous
sommes... Parce que vous êtes infirmière libérale, hein, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Et on n'a rien eu, on n'a eu aucune information des ARS hein, pour le moment. Voilà, on nous dit oui qu'on peut...
Les agences régionales de santé.
Voilà, c'est plus encore par rapport au dépistage et ce genre de choses, mais rien concrètement par rapport aux vaccinations. Et à un moment donné, ce qu'il faut aussi penser, c'est... moi, je trouve que là-dedans, dans toute cette polémique, ce qu'on oublie encore une fois, et pourtant ceux qui sont en première ligne, ce sont les soignants. Alors ça va être des personnes qui soignent dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux et en ville. On est les grands oubliés de ce système, alors qu'au final, les seuls qui peuvent réellement et concrètement faire quelque chose, ce sont les soignants.
Bien sûr, mais moi, ce qui me fascine toujours, parce que je suis comme vous, j'ai appris des choses, c'est quels sont ceux qui prennent les décisions. Par exemple, j'ai appris ces dernières heures que pour vacciner, on vaccine avec un même flacon et que ce flacon donne 5 doses. Nous sommes d'accord. Donc, lorsque on a demandé au médecin de ville de vacciner, on demande au médecin de ville d'avoir 5 patients en même temps dans leur cabinet. Bon, ce qui pose évidemment un problème d'emploi du temps pour les uns et les autres qui peuvent pas être sans doute les 5 au même moment. Donc, un enfant de 10 ans comprend ça. Donc je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne vaccine pas à la chaîne, si j'ose dire, et pardonnez-moi cette expression triviale, dans ce qu'on appelle aussi, le terme n'est pas joli, vaccinodrome, et où on puisse effectivement, de manière indifférente, vacciner tous les gens qui se présentent. Alors peut-être faut-il les catégoriser. Mais tout ça, t'as pas besoin de faire l'ENA pour réfléchir comme ça. T'as juste un poil de bon sens, et de dire c'est pas tant les médecins de ville qui vont vacciner, mais que des grands espaces, appelons ça comme on veut. Eh bien ça, manifestement, ça ne monte pas jusqu'au sommet de l'État, et je ne sais pas pourquoi.
Mais voilà, mais ça reste toujours la même problématique. Il y a un tel delta entre la réalité du terrain et les grandes instances et rarement c'est cohérent. On nous demande à nous soignants d'être là, d'être au taquet, de tout faire et aucunement on a été valorisé. Moi je sais que j'ai fait la première période du Covid, ça a repris chez nous. En aucune manière vous êtes valorisé. Au contraire, on nous demande encore plus de paperasse, encore plus de ci, encore plus de ça. Et à un moment donné stop, hein, parce qu'à un moment donné les soignants, quand il n'y en aura plus, qui prendra notre place?
Merci Céline pour ce premier témoignage. Il est 13h08, on va marquer une première pause.
Merci.
Je salue Damien Béchiot qui est présent aujourd'hui. Vous aviez dit
bonjour
peut-être
Pascal,
hier et finalement c'était réalité.
Tout à fait. Peut-être demain, peut-être qu'il sera là.
Peut-être demain.
Peut-être.
Non mais attendez, nous vous saluons avec un grand plaisir.
Merci
à toute l'équipe évidemment des auditeurs qui est là. Bonne année une nouvelle fois, on a jusqu'au 31 janvier, on va le dire tous les jours. C'est un mélange de bonne année et de bon courage. Disons-le, que nous adressons
aux... L'année dernière, nous avons souhaité la bonne année.
Oui, c'est pour ça que cette année, on dit bon courage.
On évite.
13h09.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et nous saluons Laurent Tessier. Bonjour, cher Laurent.
Bonjour, Pascal. Bonjour à tous. Amplifier, accélérer et simplifier la stratégie vaccinale. Olivier Véran était l'invité de RTL ce matin. Le ministre de la Santé vous a-t-il convaincu? Eh bien, des paroles et encore des paroles pour Gérard sur la page Facebook de l'émission. Yves, ne décolère pas avec le début très critiqué de la campagne de vaccination. Les histoires autour des masques, les tests, là, c'est trop. Ça y est, nous démarrons, applaudit Benoît. Enfin, on était vraiment en mode tortue. Pour Thierry, même avec l'éternelle 7e compagnie, on aurait mieux géré les premiers jours de la campagne. Serge, lui, se félicite. La vaccination à des personnes âgées 75 ans et plus qui sera autorisée avant la fin du mois de janvier. Janine est pressée de faire partie des futurs vaccinés. Et même avis pour Damien, oui, vivement cette possibilité de s'inscrire. Hâte de reprendre une vie normale.
Il y a quelqu'un qui compare le gouvernement à la 7e compagnie,
Thierry.
C'est ça? Eh bien, alors la 7e compagnie, au moins, ils étaient drôles.
Oui, c'est vrai.
Si vous voulez, ils étaient peut-être pas tout à fait compétents, mais ils étaient amusants. Parce que là, ils sont moins amusant. Vous pourrez d'ailleurs poser vos questions ce soir à la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Elle sera l'invitée de RTL Soir avec Thomas Soto. Elle répondra à toutes vos questions au 32-10. Moi, si j'étais Thomas, déjà, je lui demanderais, est-ce que vous avez pensé à démissionner? J'imagine qu'il va lui demander quand même, puisque si elle n'est pas d'accord avec le gouvernement, elle est, a priori, elle doit défendre la culture, mais tout est fermé. Donc, ou alors elle est d'accord avec le gouvernement à ce moment-là. Évidemment, elle reste. Véronique est avec nous. Bonjour Véronique.
Bonjour Pascal. Et tous mes voeux.
Eh ben c'est gentil. C'est gentil Véronique.
Continuez comme vous êtes malgré toutes les critiques. Enfin, les quelques critiques.
Il y a toujours des râleurs. C'est normal les critiques. Voilà. Mais en plus, c'est la vie. Moi, comme je prends parfois position, je comprends qu'on critique. C'est normal.
Donc tous mes voeux de bonheur et de bonne santé.
C'est gentil. Vous avez écouté le ministre ce matin ?
J'ai pas écouté, j'ai regardé un petit peu les critiques, etc. Mais je vais vous dire franchement, moi depuis un certain temps, dès que à la télé, quand je l'entends parler vaccins, je baisse le son, je prends mon livre.
Ah bon ?
Parce que
pourquoi pas ?
Ça commence à m'énerver. Parce que, écoutez, il y a 3 semaines, c'était, oui, c'est scandaleux, on met sur le marché un vaccin, on l'a fait en 1 an, on ne sait pas ce que ça va donner, on ne connaît pas ce qui va se passer derrière, les effets secondaires, etc. On commence à vacciner, c'est oui, on ne vaccine pas assez vite. Donc moi, j'ai à un moment donné, il faudrait peut-être savoir ce qu'on veut.
Bah, c'était le dessin de Plantu d'hier, d'ailleurs, qu'on avait cité, hein, si vous vous souvenez. Oui. C'est le français qui se plaint de tout et son contraire.
Voilà, exactement. Alors, effectivement, alors tout le monde remonte sur oui, il n'y a pas... Oui, ok, d'accord, on n'avait pas assez de masques, et bon, ça, on le sait, etc. On va pas remonter en permanence sur ce qui s'est mal passé, parce que aller derrière, ça n'avance rien. Pour avancer, il faut regarder devant. Moi, je dis, la polémique, elle ne devrait pas exister. On a dit, il y a 3 semaines, oui, c'est scandaleux, ce vaccin, on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas si c'est sûr, pas sûr. On nous a dit, si vous voulez vous vacciner, vaccinez, si vous ne voulez pas, vous ne vaccinez pas. Bon, là, on commence effectivement à vacciner. Alors, ceux, à mon avis, qui voulaient se vacciner, crient en disant, ouais, c'est pas normal, on ne va pas assez vite, etc. Et ceux qui ne voulaient pas se vacciner, qui ne veulent pas se vacciner, je pense, reprennent sur, on n'a pas eu assez de masques, machin. En fait, qu'est-ce qui se passe? Je pense que les gens s'enquiquinent dans la vie et qu'ils ont besoin de remuer, de parler, de... Parce que là, le problème, il n'existe pas. On veut se vacciner. Eh ben, on se vaccine, on veut pas, on se vaccine pas. On dit ça va pas assez vite. Alors pourquoi Monsieur Macron a lancé effectivement la polémique de oui c'est pas normal, ça va pas assez vite. Ça, j'en sais rien.
Parce que ça allait pas assez vite, parce que justement il veut donner un signe à son administration. C'est qu'il dit en privé parfois, c'est-à-dire que l'État profond empêche la bureaucratie, la sociale bureaucratie, comme disent certains, qui aurait remplacé la sociale démocratie, la sociale bureaucratie. Eh bien, elle freine.
Bah, c'est à lui de faire ce qu'il faut. Il est à la tête du pays.
Oui, pour que toutes
ces administrations, cette bureaucratie. Mais on a des exemples réguliers d'aberrances, de savoir que ceux qui dirigent sont à des milliers de kilomètres de ce qui se passe.
Oui, mais regardez, il y a une des normes.
Bah oui, non, mais à un moment donné, regardez pendant le confinement. On avait dit oui, le BTP reste continu. Ok, sauf que l'urbanisme ne travaillait pas. Donc les gars du bâtiment pouvaient bosser, sauf qu'on n'avait pas de permis. Ils font comment?
Bon, vous allez vous faire vacciner, vous, Véronique, par exemple. Je peux donner votre âge? Vous êtes jeune. Vous avez 63 ans.
Eh ben, on est jeune, vous avez raison.
Bah oui, vous êtes pas vieille, en tout cas.
Voilà. Écoutez, égoïstement, effectivement, moi, je suis un peu, on va dire, derrière entre deux chaises. Je me dis que ce vaccin, c'est une chance, effectivement, qu'on ait un vaccin. Effectivement, on n'a pas les effets secondaires. Mais de parler des effets secondaires, c'est un peu délirant, parce qu'on a des médicaments comme l'esbériven, où on a eu l'effet secondaire... je vais dire une génération après, où les femmes qui faisaient des fausses couches prenaient ce médicament et ce sont les filles qui se sont retrouvées à être stériles, avoir des problèmes pour avoir des enfants. Donc les effets secondaires, on ne sait pas si on va les avoir dans 3 mois, dans 6 mois, dans 10 ans, dans 20 ans.
Si effectivement vous pensez qu'il y a des effets secondaires dans 20 ans,
peut-être.
Là on est...
Voilà.
Oui, mais donc, ça c'est compliqué. Moi je ne peux pas répondre à cette question, bien évidemment.
Moi non plus. Voilà. Donc moi je dis... je vais attendre de voir s'il n'y a pas des effets secondaires rapides sur des problèmes d'allergie, sur des choses. Moi, j'ai fait 2 pancréatites. Je sais que tout ce qu'on nous met dans le corps, c'est en partie éliminé par le foie, etc. Le pancréas est à côté. Tout ça, c'est lié. Donc, je me dis, bon, je vais quand même essayer de voir si, attendre un peu. Et puis, si effectivement...
Oui, mais si tout le monde
COVID...
attend, personne ne se fait vacciner. Parce que j'entends hier, moi, c'est une petite musique. Je vais attendre. Monsieur.
Mais si on attend tous... Non, parce que à partir du moment où on va avoir beaucoup de personnes qui vont... Alors, moi, je suis d'accord avec vous que c'est complètement égoïste. Hein, et j'en suis pas satisfaite.
Vous en fichez quand même, quoi.
Non, je m'en fiche pas. je dis, voyez, je serais complètement égoïste, je dirais non, je me vaccine pas.
Vous attendez que tout le monde soit vacciné, mais quand tout le monde sera vacciné, vous dites, bon, je vais pas me faire vacciner, puisque tout le monde l'est déjà, ça sert plus à rien.
Alors, oui, il y a des gens qui vont faire ça. Moi, je suis pas d'accord. C'est comme le problème des vaccins, de polio, etc., où il y en a qui disent non, on vaccine pas, et qui attrapent pas la polio, parce qu'effectivement, il y en a plein qui sont vaccinés.
Ben oui.
Il y a des vaccins où c'est impératif, il faut les faire, ça évite que la maladie revienne. Donc faut pas être complètement idiot. Là, moi, j'ai toujours été persuadée que c'était pas un virus, si, je dirais, qui tue plus que la grippe, effectivement.
Non, mais la létalité, vous avez raison. La difficulté pour les uns et les autres, c'est de comprendre que tu te fais vacciner non pas pour toi, ce qui est généralement le cas lorsqu'un virus, la variole, on se faisait vacciner pour soi, parce que si on l'attrape, on était mort. Là, la difficulté, notamment pour les plus jeunes, c'est de leur faire comprendre que eux ne sont pas en danger de mort, objectivement, statistiquement. Hein, il y a toujours évidemment des cas, mais qu'en revanche, ils vont protéger le reste de la population. Et ça, c'est un peu de pédagogie à mettre en place. Il est 13h17, Véronique. Bonne année à vous.
Merci.
Bonne année, Véronique. On va être Chantal avec Chantal dans une seconde. Il y a beaucoup de femmes qui nous appellent. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est vous qui êtes aux manettes aujourd'hui, Damien. Donc le peuple féminin de France vous appelle aujourd'hui. Ah, Damien
Béchiot. J'ai la chance.
Et oui, à tout de suite.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Chantal est là. Bonjour Chantal.
Bonjour Pascal.
Vous habitez Dijon. Vous avez écouté le ministre de la Santé ce
j'ai
matin.
J'ai lu plutôt parce que non, je l'ai pas entendu ce matin.
Bon, vous allez vous faire vacciner ?
Oui. Et j'attends. Et ça m'énerve quand on me dit qu'on commence par les personnes des EHPAD et des plus de 75 ans. Est-ce que ce sont les gens des EHPAD qui ont contaminé les gens plus de 75 ans, est-ce qu'ils sortent encore ? Ils sortent, bien sûr, mais je veux dire qu'on devrait pouvoir aller se faire vacciner si on en a envie. Il y a tellement de gens qui ne veulent pas. Alors, ceux qui ont envie, on devrait pouvoir y aller. Voilà.
C'est pas faux. C'est pas faux. Mais qu'est-ce qu'on vous répond si on vous a demandé, par exemple, à votre généraliste ? Il vous dit que vous n'êtes pas dans les personnes prioritaires, sans doute.
Ben non, pas vraiment. Hier, moi, je suis allée voir, je fais l'acupuncture, là. Et il me dit, mais pour l'instant, nous, on n'a aucune directive, on n'a pas de vaccin. Et moi, alors, des moments, je me dis, mais est-ce qu'ils nous font le coup des masques ? Est-ce qu'on a assez de vaccins ? Est-ce qu'ils sont là ou pas ? Bon, mais je veux dire qu'on devrait pouvoir, alors, tant mieux, ils veulent faire une liste, mais qu'on puisse au moins se faire vacciner ceux qui en ont envie. On est pratiquement, j'ai regardé votre sondage, à moitié-moitié. Eh bien, tant pis, ceux qui ne veulent pas, ils n'y vont pas.
De toute façon, comme on imagine 5 millions de personnes vaccinées, paraît-il, jusqu'au mois de juin, il y a plus de gens qui ont envie de se faire vacciner que de gens qu'on imagine vacciner jusqu'au mois de juin. Donc, puisqu'il y aurait 40% des Français qui se feraient vacciner volontiers. Donc, ça représente plus que les 5 millions. Donc, a priori, effectivement, on peut tous se faire vacciner, quoi. Ceux qui veulent, en tout cas.
Ben oui, mais moi, et c'est surtout quand même, moi j'ai envie de reprendre une vie normale, c'est pas parce que, je veux dire, c'est bon, les personnes dans les EHPAD, c'est très bien, mais effectivement, ils sont à risque, mais c'est quand même plus les gens qui sont venus les voir qui les ont contaminés, non ?
Mais c'est pour ça que là aussi, la stratégie, moi je suis évidemment pas médecin, mais on dit qu'il faut vacciner les gens les plus fragiles, sans doute, mais faut sans doute aussi vacciner les gens qui transmettent le virus. Et les gens qui transmettent les virus, c'est les plus jeunes parce qu'ils ont plus d'interactions. Donc peut-être que là aussi, il y a une stratégie qui pourrait être différente de vacciner d'abord ceux qui transmettent le plus le virus.
Mais oui, je sais pas. Oui. Et puis je veux dire que, et puis même quand on a la soixantaine, je veux dire, on a envie de sortir, on a envie de recevoir des gens.
Bien sûr.
On a envie, je sais pas, moi j'ai envie de voyager.
Bien sûr.
Et voilà, pourquoi commencer par les plus, avoir 75 ans, 80 ans ? Oui, c'est d'accord, ils sont fragiles, mais c'est quand même pas eux qui transmettent tout le plus.
Bien sûr, parce qu'il y a moins d'interactions pour ces personnes fragiles, oui. Mais faudrait sans doute idéalement faire les deux le plus rapidement possible. Merci Chantal. Sylvie, alors je ne sais pas pourquoi il n'y a que des femmes qui appellent aujourd'hui. C'est un standard féminin aujourd'hui. Bonjour Sylvie, vous êtes infirmière.
Oui, c'est ça, je suis soignante.
Alors, vous êtes en libéral ou vous êtes en...
Oui, je suis en libéral depuis 10 ans. Ben, je me suis fait connaître grâce au centre de vaccination de Roselyne Bachelot, de la grippe H1N1, en 2009. J'ai distribué mes cartes de visite comme ça au fur et à mesure que je vaccinais les gens. Et là, moi, je suis tout à fait pour la vaccination. Mais moi, j'ai une clientèle qui a plus de 75 ans. Donc, moi, je suis en train de les... les préparer à leur dire qu'il faut se faire vacciner. Et je suis tout à fait d'accord avec le gouvernement pour vacciner les plus vulnérables. Parce que de toute façon, les jeunes, même s'ils sont vaccinés et que c'est eux qui transmettent le plus, on n'est pas sûr que le vaccin, de toute façon, empêche la transmission. Mais on est sûr, par contre, que ça diminue la maladie si elle doit se déclarer.
Bien
et
sûr.
C'est nos personnes âgées qui sont plus mortelles ou qui ont une morbidité plus importante par rapport à cette maladie. Et ils ont une vie sociale. Et c'est la seule raison de vivre, de finir leur jour, la plupart du temps, c'est d'avoir une vie sociale auprès de leurs petits-enfants et de leurs arrière-petits-enfants. Donc moi, je suis tout à fait, je suis en train de les préparer pour leur dire d'accepter le vaccin. Mais la plupart sont résistants parce que ils ont entendu les complotistes.
C'est-à-dire que la plupart des gens que vous croisez, qui ont plus de 75 ans, qui sont donc fragiles,
oui,
ce sont eux les principaux qui terminent dans les services de réanimation. Ils vous disent ou elles vous disent que...
Oui, ils sont très méfiants parce qu'il y a eu toute cette polémique. Et du fait, le gouvernement... Enfin, moi, je suis tout à fait dans la logique du gouvernement, mais il faut que ça aille plus vite. Et puis, il faut qu'ils arrêtent de demander à avoir les médecins, les gens... Parce que plus ils veulent faire de la pédagogie... Plus ils se prennent les pieds dans le tapis, j'ai l'impression, et plus ils me donnent du grain à moudre aux complotistes. Moi, ils font tout
alors,
le contraire de ce qu'ils voulaient faire, j'ai l'impression.
Mais comment, ces personnes que vous croisez, quelles sont les raisons qui provoquent leur méfiance?
Ils pensent qu'ils vont avoir des effets indésirables.
C'est ça.
Alors qu'ils ont été vaccinés, ils ont tous leur vaccin un jour. La plupart, en plus, je les vaccine contre la grippe. Je leur dis, mais la majorité d'ailleurs, je leur ai dit, mais la vaccination contre la grippe est efficace à 70%.
Mmh.
Et celui-là, il est efficace à 90%. Mais ne vous gênez pas, surtout que j'ai une mamie qui a 96 ans, elle va être arrière-grand-mère pour la troisième fois. Je lui dis, mais quand même, vous n'allez pas pouvoir voir votre arrière-petit-fils à la naissance parce que vous ne serez pas vacciné. C'est quand même dommage. Parce que vous aurez peur qu'on vous transmette ses petits-enfants, sa fille, tout ça. Ils font très attention pour ne pas lui transmettre la maladie. Je lui dis, si vous étiez vacciné, vous, quand même, vous retrouveriez une vie sociale, quoi. Donc, elle préfère s'isoler et ne pas prendre le... Et puis, elle me dit, oh, moi, je suis Kochka. Hein. Moi, j'ai décidé que ce sera non, c'est non.
Ben oui, parce bon, que je ne veux pas essentialiser, mais souvent, à cet âge-là, parfois... on est peut-être moins souple de caractère,
oui,
que lorsqu'on est un peu plus jeune. Alors, je ne veux pas faire de généralité mais...
Et le fait que le gouvernement ne prend pas de décision ferme...
Mais ferme, ça voudrait être quoi? Vaccin obligatoire?
Dire, oui, le vaccin est efficace, allons-y, vaccinez-vous au maximum. Bon, mais
c'est ce qu'il va dire.
Oui, oui. Mais
après, au-dessus...
Il n'y a pas plus que ceux qui ne veulent pas entendre.
Oui.
Vous voyez, les complotistes, ils ont déjà fait leur boulot, là. Ils se sont insérés, là. Et moi, j'ai beau expliquer, les gens, ils restent devant leur télévision, puisque la plupart du temps, ils sont isolés ou confinés, à écouter en boucle les chaînes d'infos qui sont même
oui,
pas
mais
des chaînes d'infos.
Honnêtement, les chaînes d'info, et je peux en parler puisque je suis sur une chaîne d'info, globalement, elles sont pro-vaccin. Et elles ont raison, d'ailleurs. Moi, par exemple, je dis très souvent, s'il y avait une chose qui pouvait nous réconcilier, c'est le vaccin. Autant on a eu plein de différences dans cette période, autant... Il y a 6 millions de gens qui ont été vaccinés aujourd'hui dans le monde. 6 millions, c'est pas rien. Alors, on ne sait pas encore, effectivement, tout de ce vaccin, et notamment s'il est efficace à 100%, bien évidemment, si on peut contaminer ou pas, ce qu'on disait tout à l'heure. Je suis d'accord, mais l'essentiel, quand même, si j'ose dire, l'essentiel, c'est que... Il n'y a pas d'effet secondaire, hormis les choses classiques qui peuvent arriver avec un vaccin, allergie, etc. Que je sache, sur les 6 millions de gens, donc ça doit rassurer les gens. Et l'autre chose qui rassurerait peut-être les gens, c'est si le gouvernement et pourquoi pas l'Assemblée nationale, tous se vaccinaient en même temps.
Oui, tout à fait. Là, je serais tout à fait court. Surtout que les Sénats, ils ont plus,
je pense que c'est ce qu'ils devraient faire.
75 ans, la plupart du temps. Et la plupart du conseil scientifique aussi. Hein, on les voit à la télévision, ils ne sont pas tout jeunes.
Je suis d'accord avec vous, Sylvie. Ben, je vous remercie grandement. Merci parce que c'était très intéressant de vous écouter. Dans la deuxième partie de cette émission, parce qu'on reparlera évidemment entre 14h et 14h30 de la vaccination avec le professeur Sebag. Mais là, on va beaucoup parler de cette affaire d'inceste avec, et notamment Camille Kouchner qui a aujourd'hui 45 ans. Elle est la fille de Bernard Kouchner et d'Evelyne Pizier, figure de la haute bourgeoisie culturelle et intellectuelle des années 70 et 80. Et elle paraît, elle va faire paraître un livre où elle accuse Olivier Duhamel d'avoir abusé de son frère jumeau quand il était adolescent. Laurent Tessier.
Et nous continuons de vous attendre au 32-10 sur tous les sujets. Olivier Véran était l'invité de RTL ce matin. Le ministre de la Santé a répondu aux critiques sur la lenteur de la campagne de vaccination.
Avant la fin du mois de janvier, nous autoriserons la vaccination des personnes âgées de 75 ans et plus qui ne sont pas en établissement mais qui sont en ville, à la maison, chez eux. 5 millions de personnes, je peux vous annoncer ce matin que nous allons élargir dès ce matin, je passerai l'annonce, pour les pompiers qui sont âgés de 50 ans et plus, mais également pour les aides à domicile qui sont âgés de 50 ans et plus.
Et vous pourrez aussi vous inscrire dans les prochains jours sur internet ou par téléphone pour demander à être vacciné. Le ferez-vous? 32-10. Le politologue Olivier Duhamel est accusé d'inceste sur son beau-fils dans un livre à paraître jeudi, un ouvrage écrit par sa belle-fille Camille Kouchner. Elle l'accuse d'avoir agressé sexuellement son frère jumeau quand il était adolescent.
Oui, l'innommable se produit dans le secret d'une chambre. Victor a 14 ans quand il se confie à sa sœur jumelle. Camille Kouchner entend encore les pas de son beau-père dans le couloir, la porte qui se ferme. Victor la supplie de se taire. « Je savais et je n'ai rien dit », écrit la juriste.
Comment parler de l'inceste? Comment libérer la parole? Vous avez été victime. Vous avez décidé de vous exprimer plusieurs années après. Venez témoigner dans l'émission au 32-10. L'inceste toucherait près d'une personne sur 10 dans notre pays.
On va marquer une pause, mais c'est un sujet évidemment dramatique. Et c'est vrai que c'est aussi une période, un climat, que ces années 60, 70, 80, où on ne disait pas les choses comme on les dit aujourd'hui. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Camille Kouchner a donc aujourd'hui 45 ans. Elle est la fille de Bernard Kouchner et d'Evelyne Pizier. Dans un livre à paraître jeudi aux éditions du Seuil, La Familia Grande, elle accuse son beau-père, Olivier Duhamel, qui s'était remarié avec sa mère, Evelyne Pizier, d'avoir abusé de son frère jumeau quand il était adolescent. Elle raconte aussi l'omerta d'une famille, et plus encore d'un milieu, et sans doute d'une époque. Olivier Duhamel est un politologue de renom. Il est constitutionnaliste, il est éditorialiste. C'est une personnalité qui occupe de fonctions de prestige, professeur à Sciences Po, président du siècle, ce club ultra fermé où se croisent les décideurs du pays. Ce livre prolonge les paroles de celles et ceux qui ont brisé le silence longtemps après les faits, qui rapportent des événements graves, dramatiques, que la société longtemps ne voulait pas voir. Nous sommes avec Ghislaine, et je la salue. Nous sommes également... nous serons également dans une seconde, sans doute, avec Madame Salmona, que je salue, qui est peut-être déjà avec nous. Bonjour Madame.
Bonjour.
Muriel Salmona, vous êtes psychiatre et présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Merci vraiment d'être avec nous parce que c'est un sujet grave, passionnant, et je pense que nous devons en parler et encore en parler pour précisément que la parole puisse se libérer. Vous nous donnerez votre avis. Ghislaine est avec nous. Bonjour Ghislaine.
Oui, bonjour Pascal.
Vous-même avez été victime d'inceste.
Oui, tout à fait. Je connais Madame Zamora puisqu'elle a fait une intervention sur Auxerre il n'y a pas si longtemps sur cette thématique. Donc voilà, je sais que c'est quelqu'un qui intervient et qui fait un énorme travail sur la question de l'inceste et de l'accompagnement des victimes. Effectivement, j'ai été victime dans les années 70 de mon père.
Vous aviez quel âge?
Alors, les premiers, j'avais entre 6 ans et 14 ans concernant les faits. Et j'étais pas toute seule, j'avais ma sœur jumelle et ma grande sœur qui ont été victimes, comme moi, d'inceste.
Quand on a entre 6 et 14 ans, est-ce qu'on parle?
Alors non, on ne parle pas. Alors, alors moi j'ai une sœur jumelle avec laquelle je suis très en lien, on est très proches l'une de l'autre, ce qui nous a aussi un peu sauvés. Nous, on a pu déposer plainte à la veille de nos 28 ans, parce qu'à l'époque, on pouvait encore porter plainte 10 ans après notre majorité. Aujourd'hui, c'est un peu plus et c'est tant mieux. La loi a permis cela. Mais nous, on a eu la chance d'avoir un procès et la chance d'avoir une personne condamnée, même si la condamnation reste légère, parce que il a pris juste 7 ans et il est sorti au bout de 3 ans. Mais c'est la justice, il faut faire avec. Mais en tout cas, nous, on a été reconnus victimes et ça, c'est très important pour la suite, en fait, pour pouvoir se reconstruire.
Votre mère n'était pas au courant?
Ma mère était au courant. Elle a toujours protégé notre père. Bon, après, c'était un monsieur qui était, un tyran familial, un monsieur qui était extrêmement violent. Nous, on en avait peur, hein, jusqu'à la veille du procès, je dirais, en 2001. On avait des craintes vis-à-vis de ce monsieur qui pouvait à tout moment tenter à notre vie, puisqu'il l'avait fait quand on était jeune, hein, il avait tenté de nous tuer. Donc voilà, on avait quand même une très grande crainte de ce monsieur. Et en fait, le jour du procès, ça nous a permis de libérer pas mal de choses. Et en fait, après, il ne nous a plus fait peur, en fait. On s'est rendu compte que c'était un pauvre mec, quoi. Mais bon, voilà, c'est... Voilà. Aujourd'hui, il n'est plus là, il est décédé. Ma mère vit toujours, mais par contre, j'ai mis, moi... Enfin, on est cinq enfants, et les cinq enfants, on a mis de la distance avec notre mère, parce qu'elle l'a trop protégée, elle a pas su nous protéger.
Ghislaine, vous avez donc 50 ans, vous venez de dire que vous avez quatre frères et sœurs.
Je vais avoir 50 ans.
Comment vous qualifieriez votre vie ?
Aujourd'hui ? Alors, j'ai pas pu construire une vie de famille, par contre, j'ai pas pu avoir d'enfants et construire une vie, on va dire, de couple. Par contre, je me suis complètement épanouie autrement, et aujourd'hui, moi, je suis éduque de métier. Je suis aussi une élue. J'ai beaucoup travaillé avec aussi une certaine députée qui était Madame Faure, qui est encore le maire actuel de la ville de Sens et qui s'est battue à mes côtés dans les années 2009 pour la loi sur la question de l'inceste. Donc moi, aujourd'hui, je me suis reconstruite parce que j'ai eu le droit à un procès. J'ai eu le droit aussi... J'ai eu beaucoup de chance sur mon parcours. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidée, qui m'ont accompagnée sur tout mon parcours et qui m'a permis de me reconstruire. Après, le seul... ma seule blessure encore, c'est de pas avoir eu d'enfant, parce que voilà, j'ai pas pu construire une vie de couple, parce que la relation sexuelle reste pour moi encore quelque chose de compliqué.
Merci Ghislaine de votre témoignage. Madame Salmona, vous écoutiez comme nous tous avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que vous diriez que le témoignage de Ghislaine est exemplaire?
Alors oui, je remercie beaucoup Ghislaine et vraiment je lui offre tout mon soutien et c'est très émouvant. Alors il est exemplaire par rapport à la réalité de la violence qu'elle a subie. Il est beaucoup plus rare malheureusement pour la plupart des victimes par rapport à la possibilité qu'elle a eue de porter plainte et que le père incesteur soit condamné. Donc ça, c'est malheureusement beaucoup plus rare et c'est vrai qu'elle nous a dit à quel point le soutien qu'elle avait eu ont été très importants pour sa vie. Mais elle dit aussi que les conséquences sont là et que même si elle a obtenu justice, qui est énorme, et qu'il y a eu cette reconnaissance, il faut vivre avec aussi les conséquences psychotraumatiques et le besoin aussi d'être prise en charge, soignée, réparée pour tout ça.
Dans ces affaires d'inceste, j'entends souvent les mêmes témoignages que les femmes, les compagnes, protègent leurs compagnons ou leurs maris au détriment de leurs enfants, dans une très grande majorité. Est-ce une réalité ?
Alors c'est une réalité, mais qui est très bien expliquée par Ghislaine. C'est que l'inceste se produit toujours dans des cadres de domination, de rapport de force, de tyrannie en fait, avec des personnes qui terrorisent tout leur univers et du coup qui génèrent en fait des positions où un peu comme dans une dictature, il y a des gens qui vont pas avoir le courage et par lâcheté vont se soumettre à l'agresseur et sauver leur peau en quelque sorte.
Mais j'ai parfois l'impression qu'il y a une forme de déni. Et dans effectivement le cas de Camille Kouchner, qui a donné une longue interview à l'Obs, il y a comme une sorte de déni de la part de sa mère, Evelyne Pizier, sur les agissements d'Olivier Duhamel.
Alors, je pense que c'est pas un vrai déni. C'est-à-dire que c'est une mise en scène de déni. C'est-à-dire qu'elle sait très bien ce qui s'est passé, mais elle est du côté de l'agresseur. Elle est du côté de celui qui est puissant et elle tient son discours. C'est un discours de minimisation, de retournement, de culpabilité. C'est soit ça n'existe pas, soit c'est rien, soit c'est la faute de la victime, ou soit elle était consentante. Donc c'est le discours habituel de propagande de l'agresseur et qui est relayé malheureusement par beaucoup de complices qui sont les collaborateurs de ce discours.
Mais ça, c'est même les amis. C'est-à-dire que les amis qui se détournent des enfants, c'est ça qui est absolument fascinant. Alors, il y a deux choses dans ce dont on parle aujourd'hui. Il y a l'inceste, effectivement, et puis il y a cette France-là des années 70-80, dans une certaine bourgeoisie intellectuelle et culturelle, qui pouvait pratiquer le jouir sans entrave, et qui pouvait arriver aux conséquences dont on parle à l'instant. 13h38, on marque une pause et on a de nouveaux témoignages au 3210 qui arrivent. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Dans son récit La Familia Grande, publié au Seuil jeudi 7 janvier, la juriste Camille Kouchner accuse donc son beau-père d'avoir abusé de son frère jumeau quand ils étaient adolescents. Et voici ce qu'elle écrit, ce qu'elle dit dans une interview à l'Obs. « J'ai choisi d'écrire car je ne pouvais plus me taire. Il y a un an, j'ai expliqué à mes enfants ce qui s'était passé. J'avais besoin de leur montrer qu'on n'allait pas tous rester emprisonnés dans le silence. Je ne pouvais pas à la fois leur dire qu'on ne doit pas se laisser imposer ses secrets et moi-même rester dans le silence. Ce livre est né de cette nécessité, témoigner de l'inceste pour montrer que ça dure des années, que c'est très très difficile de se défaire du silence. Je ne l'ai pas écrit au nom de mon frère, mais des sœurs, des nièces, de toutes les personnes touchées par l'inceste. L'omerta dans une famille pèse pour tout le monde. » Nous sommes avec Laurent qui a 46 ans. Bonjour Laurent.
Bonjour Pascal.
Votre témoignage là aussi est dramatique puisque vous-même vous avez été violé à l'âge de 9 ans.
Oui, alors violer, il faut dire l'entière vérité, c'est violer avec consentement, quoi. C'est de 9 ans à 15 ans. C'est-à-dire que
mais qu'est-ce qu'un consentement à l'âge de 9 ans?
Non, mais c'est intéressant. Aujourd'hui, on peut parler de ça, on peut parler de consentement. Sauf que l'affaire a été jugée en 2005 et que ça, justement, j'ai sous les yeux le procès-verbal d'appel de Bordeaux en 2005. Hein, où c'est écrit les éléments constitutifs des crimes de viol et délit ne permet pas d'établir que les actes sexuels commis sur les personnes des participants ont été avec contrainte, violence, menace ou surprise, que ces éléments constitutifs ne peuvent pas se déduire de l'âge des victimes, j'avais 9 ans, ni de la qualité de personne ayant autorité. Voilà. Que pas davantage de liens affectifs qui les unissaient à leur oncle ne suffisent à démontrer l'existence d'une contrainte. Voilà. On m'expliquait que j'étais consentant en fait à 9 ans. Excusez-moi.
Je vous en prie, Laurent.
C'est ça le plus dur. Mon oncle, je m'en fous à la limite. C'est dégueulasse, quoi. Et je peux plus rien faire. Parce que c'est fini, quoi. Parce que ça a été jugé, alors on m'a expliqué, j'ai appelé des associations comme quoi c'est jugé, c'est fini, voilà. Et donc je peux plus.
Muriel Salmona vous écoute et on voit les traumatismes, c'est-à-dire que ce traumatisme, il est intact.
Ouais, parce que le plus dur, excusez-moi, je coupe, le plus dur, c'est qu'on vous explique que c'est un peu de votre faute, quoi. Et que vous étiez consentant et que il a été gentil avec vous, que vous avez bien voulu.
Le jugement date de 2005, c'est ça.
De 2005, c'est pas il y a 30 ans.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce ne serait sans doute pas le même jugement, Madame Salmona.
Si, c'est tout, malheureusement tout à fait possible. C'est pour ça qu'on monte au créneau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de seuil d'âge du non-consentement en France, de façon complètement inconcevable.
Ça n'a pas de sens.
Eh bien oui, ça n'a pas de sens, mais c'est possible. On a eu deux petites filles aussi de 11 ans qui ont été déclarées consentantes, et donc ça n'a pas été jugé comme des viols, ni des agressions sexuelles, mais
qu'est-ce
comme des atteintes
faire,
sexuelles. Il faut un seuil d'âge du non-consentement, c'est-à-dire que là, c'est totalement cruel et inhumain de considérer qu'un enfant peut être consentant par rapport à des actes qui sont des actes de torture, de barbarie,
et
la Cour européenne dit que c'est des actes cruels, dégradants et inhumains. La loi est... Ben, ça n'existe pas.
Pourquoi
parce que justement la loi là est vraiment à la fois en échec total et totalement injuste à ce propos.
Enfin, c'est pas très dur de faire une loi pour dire qu'avant 15 ans il n'y a pas de consentement.
Il faut croire que si, puisque c'est ce qu'on avait proposé.
Quel âge vous aviez fixé?
Nous, on avait proposé.
Moi, j'ai dit 15 ans d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le bon âge ou pas.
Alors, nous, on avait proposé 15 ans et, comme âge de consentement en général, et 18 ans en cas de situation d'inceste, de personnes en grande vulnérabilité, handicap, et de personnes si l'agresseur est en position d'autorité. C'est ce que demande d'ailleurs le Parlement européen. Il parle aussi de
Mais quelle est la logique intellectuelle qui récuse
la logique,
cela
C'est le Conseil d'État qui a récusé ça, puisque ça avait été demandé, ça avait été promis par Marlène Schiappa et par Emmanuel Macron. On était tous d'accord. Et en fait, ils ont déclaré que ça pouvait être inconstitutionnel. C'est pas possible. Il faut changer la loi. C'est vraiment totalement une atteinte à la. Non seulement il y a une atteinte à l'intégrité très grave avec les viols, mais là, c'est une atteinte à la dignité des personnes. Et puis, c'est une négation totale de la gravité des actes et des actes de torture qui sont commis sur les enfants. Et c'est extrême. Et là, on le voit dans ce témoignage, c'est extrêmement maltraitant. Donc nous, on remonte au créneau. Il y a une proposition de loi qui vient d'être déposée, que l'on va soutenir. Et on espère obtenir enfin, en France, cet âge-là. Sinon,
ça existe dans d'autres pays ?
Mais bien sûr, dans tous les pays quasiment en Europe, il y a un seuil d'âge qui s'étale, qui est maintenant de plus en plus autour de 16 ans d'ailleurs, entre 14 et 16 ans dans l'ensemble. Mais bien entendu, parce que je veux dire, c'est impensable, une négation de la réalité.
Laurent, je repose la question que je posais tout à l'heure, la même d'ailleurs. Comment vous qualifiez votre vie aujourd'hui ?
Eh ben ça va, parce que j'ai réussi à faire une vie, avoir un super boulot que je voulais, avoir deux enfants, mais ça revient de temps en temps, comme ça, ça m'a fait beaucoup de bien le livre de Springora, ça m'a fait beaucoup de bien d'aller voir Grâce à Dieu, de savoir que j'étais pas seul, qu'il y avait un petit gens qui...
Un film formidable, Grâce à Dieu.
Grâce à Dieu, c'est génial, parce que, en fait, je me suis retrouvé dans tous les personnages des âges différents. Et je sais pas si vous vous souvenez, dans Grâce à Dieu, à un moment donné, il va voir une dédicace qui a 27 ans, lui, il a 45 ans, et l'âge que j'ai, là où je vous parle aujourd'hui, vous pouvez pas savoir comme c'est difficile pour moi de, c'est la première fois que j'en parle publiquement. Au début, je voulais changer mon prénom. Finalement, j'assume, mais c'est difficile. Il y a personne qui est au courant, quasiment personne qui est au courant autour de moi. Et il va voir cette victime de 27 ans qui lui dit « Mais fous-moi la paix avec tes histoires. Moi, j'ai une vie à faire. » Moi, c'était exactement pareil il y a 27 ans. C'est pour ça que c'est compliqué, la prescription, parce qu'à 27 ans, on n'a pas envie d'être qualifié de victime. On a envie de vivre sa vie, on a envie de se construire, on a envie de trouver des choses, et on n'a pas envie d'être étiqueté de victime de pédophilie avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire le jugement des autres, avec peut-être, oh là là, il est victime de pédophile, donc peut-être qu'il va recommencer, peut-être faire la même chose. Alors pas du tout, ça m'a jamais traversé l'esprit à moi. Et ce sont des petites choses, des petites phrases qu'on entend dans la société qui nous culpabilisent, qui nous disent ah non, faut pas que je le dise parce que les gens, ils vont avoir peur de moi, ils vont avoir peur pour leurs enfants, ils vont avoir peur. Alors que pas du tout, je suis tout à fait normal et j'ai jamais eu ça. Mais voilà, c'est ma vie, elle est ça va. Et puis
vos
ça revient
parents, donc vous racontez. Je le dis d'une manière très crue, puisque vous-même acceptez le témoignage. Vous avez donc été violé à 9 ans par votre oncle jusqu'à 15 ans. Vos parents, quand ils l'ont su, quand ils l'ont appris, comment ont-ils réagi ?
Ça s'est fait par intermédiaire de mon frère. C'est mon frère qui l'a dit. Moi, j'en avais parlé à mon frère, comme par hasard, quelques mois avant ma majorité. Je savais qu'il y avait ces 10 ans de prescription pour viol. Et c'est lui qui l'a annoncé. Puis après, on est venu.
Ils l'ont su quand, vos parents ?
En 2002, ça a lieu de 83 à 90 à peu
et
près.
Et ils l'ont donc su 15 ans plus tard.
Ouais. Mais moi, j'ai témoigné aux policiers, pour moi, j'allais mourir avec, quoi. J'allais mourir avec ce secret.
Et votre oncle est toujours vivant ?
Ouais. Je pense, ouais. Plus de nouvelles, c'était... Sa femme était institutrice et directrice d'école et a pris sa défense et a coupé tous les ponts avec la famille.
On marque une nouvelle pause et c'est toujours difficile dans ces cas-là d'enchaîner, bien évidemment. Merci Laurent, merci à Madame Salmona, bien sûr, et on va poursuivre la discussion. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et je vous rappelle, dans le livre La Familia Grande, Camille Kouchner affirme que son frère jumeau a subi à l'adolescence des gestes incestueux de leur beau-père, Olivier Duhamel, politologue constitutionnaliste. Camille Kouchner, qui est la fille de Bernard Kouchner, et Evelyne Pizier, qui est la mère donc de Camille Kouchner, s'était remariée ensuite avec Olivier Duhamel. Donc la question lui a été posée à Camille Kouchner: quand votre père Bernard Kouchner a appris cette histoire, comment a-t-il réagi? Et elle dit ceci dans le Nouvel Obs, là encore, c'est mon frère jumeau qui lui en a parlé en tête à tête peu après la mort de ma tante, Marie-France Pizier. Notamment parce qu'on avait peur qu'il l'apprenne autrement, je n'étais pas présente, mais il m'a vu tout de suite après, il trouvait ça insupportable, voulait casser la gueule de mon beau-père. Mon frère aîné et moi lui avons alors dit qu'il ne fallait pas, malgré la colère, qu'il fallait respecter le tempo et la volonté de mon frère jumeau. Je ne suis pas du tout sûr d'avoir bien fait. Et là, j'interroge Madame Salmona, parce que là encore, c'est très difficile pour le père qui est appelé le père de l'enfant, qui est appelé Victor dans le livre de Camille Kouchner. C'est très compliqué pour un père d'aller contre la parole de son propre fils, qui dit « je ne veux pas en parler, ne fais rien Madame Salmona ». Comment faire ?
Alors, la loi est très claire hein, là-dessus, quand il s'agit d'un mineur, je veux dire, on a une obligation de signalement, enfin, parce que justement, on considère que...
Mais là, c'était des années après. Là,
alors, les années
2010,
après, c'est différent.
Manifestement, quand Camille Kouchner va apprendre à Bernard Kouchner, en fait, c'est donc son frère qui l'apprend, on est en 2010. Donc Bernard Kouchner dit « je vais aller casser la gueule d'Olivier Duhamel » et c'est son fils qui lui dit « n'y va pas ».
Oui, parce qu'il est encore complètement...
Mais que faire pour le père ? Vous voyez, c'est que faire ?
Alors, soit l'enfant est mineur et de toute façon, le problème ne se pose pas, il y a une obligation de signalement.
Là,
soit,
il avait 35 ans, en l'occurrence,
là, il est majeur.
Camille
et là, il faut vraiment faire en
75.
Sorte... Ouais, là, il faut vraiment faire en sorte qu'il y ait une vraie prise en charge autour de la personne qui a révélé pour qu'elle puisse se libérer de toutes les manipulations, de toute l'emprise, de toutes les contraintes, de toute la culpabilité, la honte qu'a créée l'agresseur et les violences qu'il a commises. Parce que sinon, et du trauma aussi, il faut vraiment traiter le trauma, parce que sinon, c'est impossible de pouvoir parler, c'est impossible de pouvoir se confronter aussi à l'agresseur, parce que c'est aussi se confronter à lui avec la peur, la terreur que ça génère, le malaise que ça génère. Et là, c'est tout un processus que l'on fait, nous, en tant que psychothérapeute, pour aider toutes ces personnes. Et puis, il y a toute la société derrière, on en a bien parlé précédemment, qui va vraiment peser sur la victime pour la mettre en cause. Et c'est, il y a à la fois la loi du silence, mais aussi la culture du viol, avec la mise en cause de la victime et la protection de l'agresseur. Donc, il faut aller contre tout ça. Et le plus souvent, ce qui permet quand même la parole, c'est de protéger d'autres enfants possiblement. On le voit souvent. C'est là où les victimes peuvent vraiment avoir la force de pouvoir révéler ce qui s'est passé pour protéger d'autres victimes. Et c'est pour ça que ça prend énormément de temps. C'est pour ça qu'aussi on demande l'imprescriptibilité.
Mais vous avez...
On veut une levée de prescription.
Pourquoi pas, en tout cas. Je trouve que c'est un sujet essentiel du jour, pour tout vous dire. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on le traite assez longuement. Je trouve que c'est un sujet essentiel. Les médias,
merci,
d'ailleurs, ont une responsabilité. Ils doivent en parler, en parler encore. On est avec Natacha et je sais que Flavie Flamand, qui, pour des raisons que vous savez, est particulièrement sensible à ce sujet, viendra avant la fin de notre émission témoigner. Natacha est avec nous. Natacha qui a 39 ans et qui a été abusée sexuellement. Bonjour Natacha.
Bonjour Pascal Praud et bonjour Muriel Salmona et bravo pour votre combat.
Vous aviez entre 10 et 15 ans
oui,
lorsque ces événements se sont passés, Natacha.
Oui, mon beau-père, ma mère s'est mise avec quelqu'un depuis mes 4 ans et en fait il a abusé de moi et de ma sœur entre nos 10 et 15 ans. Voilà, j'ai mis au courant ma mère hein, par la suite, je devais rentrer au lycée. Elle n'a pas bougé, hein. elle n'a rien fait du tout. Donc je suis restée
quand,
avec ce
quand est-ce que vous l'avez averti, votre mère ? Vous aviez quel âge ?
Eh bien, j'étais au lycée, donc en fait, je venais de passer mon... Je venais de rentrer en
c'était
seconde.
Après les faits ou c'était durant
oui,
les faits, si j'ose dire ?
C'était après les faits, c'était après les faits.
Et votre mère était toujours en couple avec votre beau-père ?
Oui, tout à fait.
Bon. Et elle n'a rien fait ?
Elle n'a rien fait. Elle m'a simplement dit « je vais le quitter », chose qu'elle n'a pas faite. Hein. Et un jour, moi, je suis partie faire mes études de psy à Tours hein, et il s'est passé un événement assez grave. Il l'a violée. Il l'a violée et là, elle a décidé de porter plainte. Et elle m'a incité, ma sœur et moi, elle nous a incité à porter plainte en même temps. Notre affaire est passée devant les assises. Hein. Il a eu 10 ans de prison. Voilà. Et là, il est... Il est extradé en Croatie parce qu'il n'a pas, pas pointé en fait après sa peine de prison.
Merci Natacha. D'autres témoignages. Je dois remercier Madame Salmona. Merci pour la qualité de vos interventions et pour votre combat, pour reprendre les mots de Natacha. Merci Madame.
Merci beaucoup.
Et Flavie Flamand, que je salue, qui nous écoutait depuis tout à l'heure. C'était pas prévu, évidemment, que Flavie vienne. Mais je sais, et tout le monde sait, combien vous êtes sensible à cette cause. Et c'est pourquoi on a d'ailleurs voulu en parler assez longuement dans Les Auditeurs ont la parole.
Je vous écoutais d'ailleurs. Et merci vraiment à chaque fois de relayer ces combats, puisque c'est effectivement le terme qu'il faut prendre.
Qu'est-ce que vous retenez de ce que vous avez entendu ?
Alors, je retiens une souffrance qui est permanente. Je retiens les dégâts que ces crimes sexuels sur mineurs peuvent avoir, non seulement pour les victimes, mais aussi au sein des familles, au sein des foyers. Et puis, je retiens que ce mouvement de la libération de la parole, qui a peut-être aussi pris naissance il y a quelques années avec la sortie de La Consolation, mon livre et encore d'autres ouvrages qui ont suivi, ce mouvement de libération de la parole, finalement, chaque année, éclaire un peu plus sur les violences sur les mineurs, les violences sexuelles sur les mineurs. Et il donne à chaque ouvrage, finalement, je pense au consentement, je pense à celui-ci qui sort jeudi et qu'il faut absolument lire, donne finalement un éclairage sur les dommages collatéraux et sur l'énormité que représentent ces crimes.
Moi, ce que je retiens aussi, c'est le rôle des mères, Flavie. C'est-à-dire que ce soit dans le consentement, que ce soit dans le livre de Camille Kouchner, les mères, pardonnez-moi, mais se conduisent très mal. C'est-à-dire que c'est des mères qui ne protègent pas leurs enfants.
Non. Alors, ce sont des mères qui ne protègent pas leurs enfants. Ce sont des familles entières aussi qui ne protègent pas leurs enfants. Il faut aussi, et Muriel Salmona le soulevait très bien, et j'ai entendu aussi certains témoignages, il faut aussi non pas comprendre ces mères, parce que ça n'est pas l'objet du tout de mon propos, il faut comprendre les mécanismes du silence, il faut comprendre la violence aussi qui est parfois exercée par ces prédateurs au sein des foyers. Il faut comprendre aussi que tout le monde est soumis au silence. C'est ça, un crime sexuel sur mineur. C'est un sujet tabou dont on ne doit pas parler, que l'on doit taire absolument. Vous parliez d'une époque, moi j'en entends cet argument de l'époque, et néanmoins ça n'adoucit pas finalement, le contexte n'adoucit pas la violence de ces crimes, parce que c'est un abandon supplémentaire. Donc je pense que tout le monde est responsable, la société a été responsable, les familles sont responsables, les mères le sont également.
Elles ont une part de responsabilité, en tout cas.
Elles
ont
forcément une part de responsabilité.
Mais plus importante parfois que les autres, parce qu'elles sont aux premières loges.
Oui, bien sûr. Mais c'est une réalité qu'il faut savoir regarder en face. Mais regardez aussi ce qui se passe. L'année dernière, le consentement est sorti pour parler justement de cette fameuse zone grise. J'entendais cet homme expliquer qu'il avait été violé par consentement selon la justice. C'est absolument révoltant. J'étais dans ma voiture en train de me garer dans le parking d'RTL et je trouvais ça absolument...
Mais comment la loi ne peut-elle pas changer?
Mais
sur
il
une
faut
chose
qu'elle
aussi
change.
Simple.
Elle a changé il y a 3 ans pour les délais justement de prescription qui étaient de 20 ans après la majorité, qui sont passés de 30 ans. C'était en 2018, le 3 août 2018. Il faut qu'elle change, il faut qu'elle évolue. Et plus la parole se libérera et plus on s'indignera en collectivité, plus effectivement on mettra la pression pour faire bouger des choses qui ne bougent pas. Mais soulevons quand même que le livre de Camille Kouchner est en train aujourd'hui de marquer un tournant, c'est-à-dire que Camille Kouchner défend une victime. C'est une personne de la famille qui parle. Il y a quelques années, c'était à nous, victimes, de briser le silence. C'est ce que j'ai fait avec La Consolation, c'est ce qu'a fait Vanessa Springora avec Le Consentement. Aujourd'hui, c'est une personne, un membre de la famille qui défend. C'est une sœur qui défend son frère. Et ça, je trouve que c'est absolument extraordinaire et courageux.
Merci Flavie,
merci,
vous allez en parler, j'imagine.
On en parlera dans quelques jours. Voilà, on va préparer évidemment une émission spéciale et on espère pouvoir recevoir Camille Kouchner, justement.
Merci Flavie. À vous. Il est 13h58. Olivier Bois dans une seconde.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Il est quasiment 14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
C'est évidemment toujours difficile d'enchaîner avec la force des témoignages que nous avons entendus. Nous allons parler du vaccin et de cette campagne de vaccination. Nous sommes déjà avec Gilles. Bonjour Gilles.
Bonjour Pascal.
Vous allez vous faire vacciner?
Pas tout de suite. On va attendre de voir ce que ça donne chez les Anglais, les Américains, tout ça. Après tout, ils ont ouvert le banc avant nous, donc on peut laisser venir un petit peu. Puis je suis pas dans les populations à risque, même si je voulais, je ne pourrais pas. Normalement, je crois que je suis prévu pour la salve 2048.
Vous n'avez pas vraiment compris l'objectif du vaccin, si j'ose dire, Gilles. Mais bon, on en parlera tout à l'heure. Olivier Bois, dans une seconde.
Et la polémique n'aide personne. Déclaration ce matin du Premier ministre Jean Castex face aux critiques, précisément sur la lenteur de la campagne de vaccination en France. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, est venu annoncer ce matin sur RTL que les choses allaient accélérer. Les pompiers de plus de 50 ans sont désormais éligibles à la vaccination. Et d'ici la fin du mois de janvier, les 5 millions de Français de plus de 75 ans qui vivent en dehors des EHPAD pourront également se faire vacciner dans la limite, bien sûr, des doses disponibles, puisque les livraisons du vaccin, notamment Pfizer-BioNTech, sont progressives. La Grande-Bretagne se reconfine jusqu'à mars. L'inquiétude est grande outre-Manche avec l'apparition de cette mutation du virus beaucoup plus contagieuse. L'Écosse aussi se reconfine complètement. Et puis Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, candidate malheureuse à la mairie de Paris, a été nommée à l'Organisation mondiale de la santé au cabinet du président de l'OMS. 4 ans après les attentats de Bruxelles, Salam Deslam est renvoyé devant une cour d'assises belge avec 9 co-accusés. Les attentats, notamment à l'aéroport de Bruxelles et dans le métro, avaient fait 32 morts et c'est la même cellule djihadiste franco-belge pilotée depuis la Syrie qui avait perpétré également les attentats du 13 novembre à Paris. La météo demain, le temps sera toujours gris et froid. Quelques flocons possibles de Limoges à Amiens en passant par Tours jusque dans l'Est. Température moins 4 à Aurillac, entre moins 1 et 2 degrés partout ailleurs. Le Quintet à Vincennes, à l'instant l'arrivée provisoire, 14, 12, 16, 15 et 6.
Merci Olivier Bois.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
La polémique n'aide personne, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, c'est le président Macron qui a déclenché la polémique, me semble-t-il, dans le journal du dimanche ce week-end. Donc si Jean Castex a un reproche à faire, peut-être peut-il l'adresser directement au président de la République. Je salue Robert Sebag qui est arrivé, qui est infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous le connaissez, bonjour.
Bonjour.
Gilles qui est avec nous, toujours en place. Cher Gilles, à tout de suite. Et Laurent Tessier pour la demi-heure qui arrive.
La campagne de vaccination est-elle enfin passée à la vitesse supérieure? Le ministre de la Santé, Olivier Véran, était l'invité d'Alba Ventura sur RTL ce matin. Il a répondu à toutes les critiques qui agitent le gouvernement depuis quelques jours.
C'était une phase d'initiation de la vaccination dont nous savions qu'elle ne serait pas massive. Et nous allons désormais amplifier, accélérer et simplifier notre stratégie vaccinale.
Et face aux critiques sur la lenteur du démarrage de cette campagne, des réponses ce matin sur RTL. La vaccination contre la Covid-19 va être élargie.
Avant la fin du mois de janvier, nous autoriserons la vaccination des personnes âgées de 75 ans et plus qui ne sont pas en établissement mais qui sont en ville, à la maison, chez eux. 5 millions de personnes. Et vous annoncez ce matin que nous allons élargir. Dès ce matin, je passerai l'annonce pour les pompiers qui sont âgés de 50 ans et plus, mais également pour les aides à domicile qui sont âgées de 50 ans et plus.
100 centres de vaccination destinés à la ville en plus. Des hôpitaux seront développés cette semaine, 300 la semaine prochaine et 5 à 600 d'ici fin janvier. Et vous pourrez faire une demande dans les prochains jours.
Nous allons ouvrir dans les prochains jours. Il y aura une conférence de presse jeudi. Une inscription possible pour les Français qui le souhaitent, par Internet, par téléphone sans doute, pourquoi pas par tous anti-Covid, pour que les Français qui souhaitent se faire vacciner puissent le faire savoir, s'inscrire et puissent prendre des rendez-vous.
Alors une question, comptez-vous vous inscrire? Avez-vous été convaincu par les annonces d'Olivier Véran ce matin sur RTL? Le ministre l'a déclaré, le rythme de croisière de la vaccination va rejoindre celui de nos voisins dans les prochains jours. Partagez-vous cet optimisme. Y aura-t-il un vaccin pour tout le monde, Sophie Orange?
C'est ça la question, parce qu'à l'heure où on se parle, il y a 1 million de doses qui sont disponibles. C'est donc pas assez pour vacciner tous les volontaires demain matin, bien évidemment. La France attend 500 000 doses du vaccin Pfizer par semaine, 500 000 doses par mois du vaccin Moderna pour les autres vaccins pas en compte calendrier. Donc clairement, il n'y a pas de dose pour tout le monde à très court terme.
Dans quel état d'esprit est le Premier ministre Jean Castex après toutes les critiques entendues?
On a un chemin que nous traçons et que nous suivons. Donc la polémique, je le dis à tout le monde, n'aide absolument personne et n'apporte aucune solution.
Et avec nous, le docteur Robert Sebag, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Bah, la polémique, elle a fait bouger un peu les choses.
J'ai envie de répondre au Premier ministre. Oui. Merci, c'est grâce à cette polémique, parce qu'il y avait une erreur stratégique massive. Et c'est vrai que nous avons d'abord, nous les soignants, dès la semaine dernière, en disant mais c'est inadmissible, on est en première ligne, on a un certain nombre de personnes Covid, 50 ans et même moins de 50 ans, et nous n'avons pas ces vaccins. Bon, heureusement qu'on a comparé avec les autres pays. C'est cette polémique qui les a fait changer complètement de stratégie. Vous savez, les personnes qu'on reçoit soit en hospitalisation, soit en réanimation, c'est pas des gens des EHPAD, ils ont 75 ans, ils sont pas dans des EHPAD, ces gens-là. Alors on allait les laisser, on allait attendre jusqu'au mois de février ou jusqu'au mois de mars pour ces personnes-là. Donc écoutez, faute avouée est à moitié pardonnée. Il y a eu des déclarations qui ont été faites, on va attendre les résultats. Moi j'attends toujours pour être vacciné, normalement je devrais être vacciné tout à l'heure, mais on me dit que les vaccins sont toujours pas arrivés, on est quand même à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Donc j'attends, sinon j'irai à l'Hôtel Dieu.
Bon, écoutez, j'allais dire, vous ne nous avez pas rassurés. Mais non, Gilles non, est mais... là et vous êtes là également pour rebondir sur ce que les auditeurs disent, pour exprimer, quand ils expriment pourquoi pas leur crainte ou leur méfiance. Gilles,
oui.
Rebonjour. Pourquoi bonjour. Vous alors... disiez je vais attendre? Parce que je dis ça depuis hier, mais si tout le monde attend, personne ne se fait vacciner.
Ah bah oui, mais ça c'est peut-être le fait que c'est l'ensemble des arguments qu'on entend sont pas si convaincants quand on parle de ce que dit Monsieur Véran. Est-ce que Monsieur Véran il ment depuis qu'il est en place? Donc en gros je dirais qu'il serait plus un mensonge. Après on pourrait lui prêter ça à crédit. Moi j'entends que je n'entends que cacophonie. Je suis pas dans les personnes à risque. De toute manière si je m'inscrivais je serais pas vacciné avant si notre organisation française s'applique vers 2048 si tout va bien. J'attends de voir les Anglais. On mis en route la vaccination avec le Pfizer. Les
non, mais Américains pourquoi ont fait vous êtes inquiet? C'est ce qui m'intéresse. Au fond, pourquoi mais moi,
je,
vous êtes
je m'interroge
inquiet.
Sur le, je m'interroge sur le gain du vaccin, Pascal Pro. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si le vaccin n'empêche pas la contamination, en gros, il empêche les gens vulnérables de développer une forme grave. Pour l'instant, j'en suis resté là. La première annonce, c'était on a un vaccin qui fonctionne bien sur les gens en bonne santé. Autrement dit, une rustine qui est parfaitement capable de guérir une chambre à air qui n'a pas de trou. D'accord, c'est très bien. J'en suis ravi. Pour le moment, ça m'apporte
Robert
rien.
Robert Sebag vous répond.
Écoutez. Deux choses. D'abord, il y a, à ce jour, il y a plus de 5 à 6 millions de personnes dans le monde qui ont été vaccinées. Il est apparu extrêmement peu d'effets secondaires. Il y a eu en particulier des effets au niveau allergique qui ont été rétablis très rapidement chez des personnes qui étaient très allergiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'argument qu'on nous renvoie toujours. Est-ce que ce virus, en delà de protéger des formes graves, il empêche la transmission? On n'a pas d'études précises aujourd'hui. Mais ce que je peux vous dire, c'est quand vous avez une production d'anticorps aussi importante qui a été prouvée dans des études et bien étudiée. Et on sait qu'au-delà de la production des anticorps, il y a aussi ce qu'on appelle une immunité cellulaire. Que vous avez des lymphocytes qui interviennent, on est persuadé que le portage du virus va nettement diminuer. Parce que ces anticorps, ils sont efficaces. Je dis pas à 100%. Donc moi, je suis pas du tout inquiet. Très prochainement, on va voir que ce virus empêche également la transmission.
La pub et Gilles continue. Et puis également Jean-Luc qui est là et Joachim. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
14h08, est-ce que la démonstration de Robert Sebag vous a convaincu, Gilles? Et je rappelle qu'il est infectiologue, qu'il en sait quand même un peu plus que vous, disons-le.
Je discute pas le fait que votre invité en sait plus que moi, heureusement d'ailleurs, ce serait dramatique.
Mais lui-même se fait vacciner.
Laissez-moi finir si vous me permettez. Monsieur se fasse vacciner, c'est son choix. Moi pour le moment, de toute façon, je ne suis pas dans les prioritaires et j'attends de voir. Si vous voulez, j'attends quelque chose qui va pas mettre 10 ans à arriver. C'est dans 2 mois, si le Pfizer fonctionne, les courbes anglaises devraient s'inverser, voire tomber. Là, ça sera la preuve que ça fonctionne. Pour le moment, je dirais pas que je suis prudent. Je suis méfiant vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique parce qu'elle a de fâcheux précédents derrière elle. Donc, pourquoi pas celui-ci? Alors, on nous explique toujours la même chose. Mais même les médicaments qui sont partis en sucette, on nous expliquait qu'ils étaient irréprochables. Donc, si je mélange ça à la cacophonie gouvernementale, aux mots d'ordre qui se contredisent, des experts qui n'ont pas les mêmes avis, etc., avant de me faire injecter un truc dans le bras, franchement, je vais attendre.
Non.
Alors, bah, monsieur, merci.
Si nous avions uniquement des communiqués de presse de l'industrie pharmaceutique concernant ce vaccin, je pourrais aller dans votre sens. Depuis, il y a eu des publications scientifiques par des pairs, des gens qui n'ont aucun conflit d'intérêt avec ces entreprises et qui montrent que ce vaccin est efficace. Je veux dire, on l'invente pas. Alors, et vous avez raison, il faut attendre effectivement de voir.
On n'a pas duré pour le moment.
Alors, on n'a pas duré, mais on sait qu'on est au moins sur 6 mois, peut-être plus. On espère beaucoup plus. Vous avez raison. On va voir effectivement si la courbe s'infléchit, en particulier en Grande-Bretagne ou dans les pays qui ont vacciné beaucoup, comme Israël ou les États-Unis, puisqu'on est quand même à plusieurs millions de vaccinations. On va le voir. Et puis, on est tout à fait prêt à discuter au moment où on aura ces évaluations.
Bah, moi, ça me paraît bien, ça. Si vous voulez, l'idée que la notion de durée, c'est on ne peut pas obtenir les mêmes retours à 3 mois et à 3 ans. À 3 ans, on voit des choses qui ne se déclenchaient pas à 3 mois. S'il y a déjà eu des précédents, c'est pas une histoire de parano, c'est juste une histoire de rester vivant dans un environnement où, en gros, tout n'est pas toujours rose.
Mais ceci est valable à la fois pour tous les médicaments et pour tous les vaccins. Ce qu'on sait, c'est que quand il y a des effets, effectivement, qui peuvent être graves, et statistiquement, c'est toujours possible, ils apparaissent très très vite. Aujourd'hui, je vous le répète, on est à plus de 5 millions de personnes. Il n'y a aucun signal d'alerte, si vous voulez, qui est apparu. Mais il faut être vigilant et surveiller.
Merci Gilles. Jean-Luc est avec nous, il est maire de Chinon. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Pascal.
Vous dites faisons confiance aux maires, mais ce n'est pas les maires qui organisent la vaccination.
Mais non, et d'ailleurs c'est pour ça que ça m'a fait réagir tout à l'heure, c'est qu'en fin de compte, lors du premier confinement et de toutes les conséquences et incidences qu'il y a eu derrière pour préparer le déconfinement et même la mise en place des tests grandeur nature, Édouard Philippe avait compris très vite que si on laissait à la haute administration cette organisation, on voyait bien que les points de performance n'étaient pas la gestion de crise où on est les plus opérants et qu'il fallait rapprocher du territoire les décisions, donc en faisant des couples préfets maire pour localement créer des solutions fiables et durables. C'est ce qui a été fait et dans le déploiement des masques, dans tout ce qui a eu grand public pour le public ou pour le reste, tout s'est passé de façon très opérationnelle, très réactive, très pragmatique, très pratico-pratique. Et en France, on ne manque pas d'administration. On ne peut pas dire qu'on soit sous-administré, mais on se rend compte que lorsqu'on doit déployer des choses à grande échelle, eh bien, lorsque la décision elle est très parisienne centrée, elle a beaucoup de mal à se dupliquer sur les territoires. Et je ne comprends pas que dans la deuxième phase, mais pour tout vous dire, avec le laboratoire qui gère le centre de prélèvement pour les tests depuis maintenant plusieurs mois dans ma ville de Chinon, on a depuis le 1er décembre travaillé à la stratégie pour mettre en place une unité de vaccination grand public à grande échelle, de façon à ce que ce lieu qui est identifié déjà pour la Covid, pour les prises de prélèvement, puisse servir demain à la vaccination à grande échelle.
C'est ça dont on parlait.
Une directive nationale pour le faire.
C'est ça dont on parlait. Comment faut-il vacciner ? Moi, j'ai appris, comme tout le monde, qu'un flacon a 5 doses. Donc, si on demande aux médecins de ville de vacciner, il faut que les 5 personnes viennent en même temps. Voilà. Donc, c'est quand même pas très pratique de convoquer 5 personnes
en même temps pour des emplois. Mais dans un centre, comme le dit monsieur le maire, c'est tout à fait possible, bien sûr.
Mais pourquoi ça n'a pas été fait ?
Avec les médecins, il suffit de donner des rendez-vous. Vous savez, on peut tout à fait s'adapter. Vous savez, quand on dit qu'il y a 40% des Français qui sont pour la vaccination, peut-être 60% compte. Déjà, si ces gens, on pouvait leur donner le vaccin, tous ceux qui sont volontaires, on devrait vacciner. Vous savez, c'est une accélération par rapport à l'immunité collective. Les gens déjà atteints, plus les vaccins, on améliorerait quand même nettement la situation.
Mais on pourrait vacciner à la chaîne. Pardonnez-moi l'expression un peu triviale comme ça.
Je ne sais pas ce que vous appelez à la chaîne.
C'est-à-dire qu'on fait un vaccinodrome et puis tout le monde vient.
Vous devez injecter du sérum physiologique dans le flacon, si vous voulez, 1,8 ml pour être précis. Et ensuite, vous avez 5 doses de 0,3 ml. C'est-à-dire qu'on injecte 0,3. Donc ça demande une préparation pour préparer des seringues à usage unique, si vous voulez. Donc ça prend du temps. Mais vous savez, il y a des volontaires, il y a des étudiants en médecine, il y a des infirmiers, des médecins à la retraite. On peut tout à fait, d'un point de vue logistique, c'est pas sortir. Et donc on peut vacciner des centaines de personnes très très vite.
Le vaccin de la grippe c'est 10 secondes.
Oui.
Là c'est la même chose ?
Ah oui, non, mais c'est dès que vous avez la seringue, si vous voulez, qui est pré-remplie, c'est immédiat, c'est 0,3 millilitres.
Oui, mais
qu'on injecte.
On le sort d'un congélateur.
Il est à moins 80 degrés.
Pendant
ensuite,
combien
vous avez 5 jours, oui. 5 jours entre 2 et 8 degrés, c'est-à-dire dans un réfrigérateur. Et ensuite, vous avez 30 minutes à 45 minutes à température ambiante. Mais déjà, quand il est dans le frigidaire, il est décongelé. Ensuite, vous le sortez, vous injectez ce sérum physiologique dont je vous ai parlé, vous agitez un petit peu le flacon et vous avez 5 doses de 0,3 millilitres. Donc, c'est pas la mer à boire, si vous voulez. Mais il faut respecter la chaîne du froid.
Merci, monsieur le maire. Vous allez organiser peut-être des espaces de vaccination dans votre ville de Chinon ?
Mais nous, il est prêt, presque configuré. Moi, j'attends simplement les directives de l'Agence régionale de santé qui est complètement absente. Je préside l'hôpital local où j'ai les EHPAD et le reste. Et pour l'instant, j'ai aucun signe de vie depuis 15 jours. J'ai pas eu un appel de l'ARS.
Monsieur le maire, je vais aller dans votre sens parce qu'il y a à peu près 1 million de doses aujourd'hui. On les a. C'est pas les masques. Là, on les a, les doses. Ouais. On en a distribué, alors c'était 500 le premier jour, peut-être 2000 hier, donc 3000. Il en reste quand même 950 000.
Et sont où d'ailleurs ?
Ben justement, alors il y en a à Roissy, et puis il y en a normalement qui ont été distribués dans les centres où il y a des congélateurs. Donc il faut savoir, elles sont où ces doses ? On a envie de savoir où sont ces doses, mais tant qu'elles ne sont pas utilisées, les gens qui sont prêts à vacciner, il faut y aller.
C'est un problème de logistique qui n'a pas été mis en œuvre.
Ouais, on aurait peut-être vu, il y a les militaires, on l'a vu dans d'autres pays, en Allemagne c'est les militaires, en Italie c'est les militaires. Ils ont un vrai savoir-faire en termes de logistique, peut-être le privé aussi, et pas attendre des transporteurs avec signé en 3 exemplaires les bordereaux. Je veux dire, là-dessus, on n'a pas su s'adapter. Il y a des gens qui savent faire en logistique, on ne les a peut-être pas utilisés.
14h16, nous marquons une pause et je salue Jean-Luc Dupont, donc, qui est le maire de Chinon. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Toujours avec Robert Sebag, qui est infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui devrait être vacciné cet après-midi, si tout va bien.
J'espère, j'attends.
Parce que bon, c'est quand même à la Salpêtrière, on ne sait même pas où sont les vaccins. Donc vous imaginez dans d'autres endroits de France. Joachim est là, bonjour, vous êtes ambulancier Joachim.
Oui, bonjour, je suis ambulancier, oui c'est ça.
Et donc vous attendez le vaccin en Bretagne, dans les Côtes d'Armor.
Oui, alors moi j'attends le vaccin et mes collègues aussi, parce que quand même on est très exposés. Ce que je voulais dire aussi, c'est que depuis le début de la crise sanitaire, nous les ambulanciers privés, on a été un petit peu oubliés, on n'a pas été conviés au Ségur de la Santé, on n'a pas eu la prime Covid de l'État, ça aurait été quand même une reconnaissance, malgré qu'on est tous les jours sur le terrain, qu'on transporte des Covid. Donc c'est pour ça, j'espère que pour le vaccin, ça sera pas la même chose, qu'on nous oubliera pas cette fois. Parce qu'on souhaite être
là, vous n'êtes pas prioritaire.
Non, parce que nous, ce qu'il faut
vous
savoir...
Vous n'êtes pas les personnel soignant.
Non, nous les ambulanciers,
ah bon,
moi j'ai un diplôme d'État qui est reconnu par le ministère de la Santé. Par contre, sur ma fiche de paye, c'est marqué Convention du transport routier. Convention nationale du transport routier. Donc nous, on a un statut un peu spécial.
Mais tous les ambulanciers sont comme vous.
Tous les ambulanciers privés... Sont comme moi.
Ceux de l'hôpital, évidemment, non, mais les privés, donc vous êtes considérés comme des chauffeurs routiers dans le privé et non pas des soignants.
Exactement. On a un statut de chauffeur-livreur, voilà, avec un taux horaire, évidemment, à 10 euros et quelques de l'heure brute, donc vraiment un bas salaire. Tout ça pour être exposé au Covid. Donc voilà, donc j'espère qu'on ne sera pas oublié cette fois.
Ben oui, mais comment vous ne seriez pas oublié ? Ils ne vont pas changer la loi. Là, vous êtes un ambulancier privé. Le statut d'ambulancier privé ne va pas changer d'ici 2 mois.
Bah non, ça, je me doute. Mais j'espère quand même qu'ils vont nous penser à nous pour les vaccins.
Ça me paraît.
Mais pas en première ligne.
Moi, les bras m'en tombent, monsieur. Je suis extrêmement surpris par ce que vous dites, parce que c'est vrai que vous êtes en première ligne et vous devriez faire partie des personnes prioritaires, comme le personnel soignant. On peut témoigner que c'est vous qui amenez des gens à l'hôpital qui ont le Covid, et on en a vu beaucoup, et d'ambulanciers privés, je dis bien, qui amenaient les gens. Donc je suis extrêmement surpris que votre profession ne fasse pas partie des personnes prioritaires pour le vaccin.
Tout le monde,
comme
même
nous d'ailleurs,
les
comme nous les soignants, mais moi je vous considère aussi comme soignant entre guillemets.
Eh ben non, on n'est pas soignant, on est les seuls comme ça en Europe. Moi, malgré qu'avec mes collègues, on puisse intervenir sur toutes sortes de choses, des infarctus, des AVC.
Mais qu'est-ce qui motive le fait que les ambulanciers privés ne soient pas considérés comme des soignants et soient considérés comme des chauffeurs routiers ?
Ben, je pense que ça fait très très longtemps que c'est comme ça, que la convention existe, qu'elle est faite comme ça, et ça n'a pas bougé. Et j'espère qu'avec le, après, avec cette crise, ça pourra faire bouger les choses, quoi.
Ben merci Joachim, merci de votre témoignage et bon courage, bien évidemment, ambulancier dans les Côtes d'Armor. Erwan est avec nous, on reste peut-être en Bretagne avec le prénom Erwan. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous êtes en Seine-et-Marne, mais c'est la Bretagne qui ce prénom.
C'est ça, avec un beau prénom breton.
Exactement.
Donc j'ai voulu vous appeler, c'est parce que je voulais donc parler notamment de la vaccination. Et alors je pense peut-être... Voilà, je vais peut-être choquer beaucoup de personnes en disant cela, mais je voulais dire que pour moi, au niveau de la vaccination, je pense que l'État ne prend pas la bonne décision. Je pense qu'encore une fois, par rapport à la vaccination et par rapport à tous les enjeux qu'il y a derrière, je me demande pourquoi cette vaccination n'est pas obligatoire.
Ça, c'est une question d'abord de liberté, c'est une question essentielle, c'est une question aussi de civisme, pourquoi pas. Souvent, moi, j'ai un avis assez précis sur les choses. Et là, pour le coup, j'ai pas d'avis, Robert Sévague. Je ne sais pas s'il faudrait un vaccin obligatoire, parce qu'en même temps, j'ai envie de retrouver une vie normale, j'ai envie que tout rouvre, les cinémas, les théâtres, et je me dis que c'est la solution, le vaccin, bien évidemment, qu'en plus, manifestement, ce vaccin n'a pas de conséquences, et c'est tant mieux dramatique, et d'effets secondaires indésirables. Et en même temps, il y a une part de liberté. Quel est votre sentiment ?
Alors autant je suis pour la vaccination obligatoire pour certaines professions, je le dis et je le répète depuis un moment, nous pensons que tout le personnel soignant dans les EHPAD, mais tous les gens qui fréquentent, il n'y a pas que des soignants, il y a des gens, des cuisiniers, des personnes qui s'occupent du nettoyage des EHPAD, tous les gens qui rentrent dans les EHPAD et dans des services hospitaliers où il y a des risques, devraient être vaccinés. Si ces gens refusent la vaccination, ils ne viennent pas travailler. Là, il faut être extrêmement strict. On l'a fait sur l'hépatite B avec les infirmières, on exigeait la vaccination, sinon elle n'allait pas dans un certain nombre de services. Après, pour la population grand public, il faut être extrêmement prudent, si vous voulez, parce que c'est un peu de donner de l'eau au moulin des complotistes et des anti-vaccins, parce que quand vous forcez toute une population à être vaccinée, vous avez l'apparition de ce qu'on appelle des coïncidences pathologiques, qui vont apparaître vaccination ou pas vaccination. On a eu cette triste expérience en France avec le vaccin contre l'hépatite B sur une certaine population et l'apparition de sclérose en plaques. Et on sait que tous les ans, vous avez 2 à 3000 apparitions de sclérose en plaques de manière normale, sans qu'il y ait un vaccin. Si vous vaccinez tout le monde, bien entendu, il va y avoir l'apparition. Et on a pointé du doigt, on a dit, ben voilà, moi j'ai été vacciné il y a 3 semaines, en particulier des jeunes filles, parce que c'était la préconisation à l'époque généralisée. Eh ben, j'ai une sclérose en plaques. Toutes les études ont prouvé qu'il n'y avait aucun lien, donc il faut être extrêmement prudent. Et là, on risque d'avoir dans les EHPAD également des personnes qu'on va vacciner, mais on sait qu'elles ont 85 ans, 90 ans, une pathologie souvent, et qui peuvent effectivement décéder dans quelques temps. Ah, vous voyez, le vaccin les a tués. Donc il faut être extrêmement prudent de ce côté-là. Par contre, il faut convaincre, il faut expliquer, mais il y aura aussi des obligations de situation. C'est-à-dire qu'un certain nombre de pays, ça je peux vous l'assurer, ça va commencer, qui exigeront pour aller chez eux ont vacciné leur population. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne rentrez pas. Ça existe déjà en Afrique sur la fièvre jaune. Je peux vous assurer que les États-Unis, très très vite, vont dire vous ne viendrez pas aux États-Unis si vous n'avez pas un certificat en bonne et due forme de vaccination. Israël, ce sera pareil. Et beaucoup de pays d'Europe, c'est ce qu'on appelle des situations, des obligations de situation.
Et évidemment, en dessous de la vaccination obligatoire, il y a le passeport vaccinal, qui est une manière quand même d'inciter les gens fortement à se vacciner. C'est-à-dire que tu entres au restaurant, tu vas au cinéma, si tu as le vaccin.
J'ai très très peur. Très honnêtement, je ne suis pas pour ce passeport. Vous savez, on a vécu ça, les infectiologues, avec le VIH et le sida, où on demandait des certificats, on avait très très peur, les assurances. Enfin, il y a eu toute une polémique, parce qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, c'est le Covid. On va vous dire oui, mais est-ce que vous avez un certificat ? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas séropositif ou que vous n'avez pas eu la tuberculose ou d'autres maladies à transmission respiratoire ? C'est sans fin. Donc, il faut être extrêmement prudent, convaincre les gens, et puis tout rentrera dans l'ordre pour un certain nombre de pathologies. On n'a pas de passeport médical entre guillemets.
Je remercie donc Erwan. Merci beaucoup, Erwan. David est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous écoutez depuis tout à l'heure, votre sentiment ?
Eh bien, je voulais d'abord saluer un de vos auditeurs précédents, Gilles, car mon propos était de dire qu'il y avait, à mon sens, de moins en moins de voix dissonantes à vos antennes, pour dire, pour témoigner du fait que certaines personnes, et la majorité, je dirais, étaient contre ce vaccin. Non pas vaccino-sceptiques, mais contre ce vaccin.
David, je peux vous dire que pour animer l'émission tous les jours, c'est majoritaire les gens qui s'expriment contre ce vaccin. Donc c'est presque le contraire, c'est moi qui suis toujours dans la position de l'avocat du diable. Il y a beaucoup de gens, que les gens qui sont contre, ils appellent davantage, pour tout vous dire.
Pas depuis quelques jours, je vous écoute tous les jours, et effectivement, moi j'ai le sentiment que depuis quelques semaines, c'est l'inverse, et même vous, j'ai envie de vous dire, il y a encore quelques semaines ou quelques mois, vous disiez vous-même que vous étiez pour le fait que, pour le confinement par exemple, vous disiez, on n'a qu'à confiner les personnes à risque et les personnes âgées.
Je suis d'accord.
Je veux dire, pour le vaccin, faisons pareil.
Vaccinons. Non, moi j'ai envie qu'on se réconcilie sur le vaccin. C'est un peu ce que je dis comme une antienne. C'est-à-dire qu'on peut au moins se retrouver sur le vaccin en disant que c'est sans doute la bonne solution.
Eh bien justement, c'est ce qui me révolte en ce moment, c'est que j'ai l'impression que les gens sont prêts à avaler des couleuvres et à vendre leur âme pour sortir de cette crise. Ils sont prêts à dire « Ok, donnez-moi le passeport vaccinal, donnez-moi la vaccination, qu'on en finisse ». C'est cette résignation qui moi, me révolte. Non, il y a d'autres moyens de sortir de ce confinement et de cette crise n'obligeant pas les gens à se vacciner et à accepter tout ça.
On n'oblige personne, monsieur. On n'oblige personne. On a des résultats. On verra avec le temps. Il faut garder beaucoup d'humilité. En tous les cas, moi, en ce qui me concerne, si vous voulez, tous les gens qui sont autour de moi et tous les patients que je vois, je suggère quand même la vaccination. Et moi-même, comme je l'ai dit, je vais aller me faire vacciner tout à l'heure. Et
vous avez effectivement, il faut du temps. Il faut du temps, mais quelques semaines pour témoigner du fait qu'un vaccin est sûr, ce n'est pas raison.
Non, il y a 6 millions de gens qui se sont fait vacciner. Ouais. En tout cas, oui, ce que je vous propose, David, parce que là, l'émission est terminée, c'est de nous rappeler demain. Vous nous rappelez demain, on commencera avec vous, c'est promis. Je vous jure, c'est promis et vous aurez plus de temps. Je remercie Robert Sebag. Vous êtes venu en vélo encore ?
Non, là, quand il pleuvait, non.
Ah, voilà. Parce que Robert Sebag vient de l'hôpital Salpêtrière jusqu'à Neuilly. Il y a quand même 10 bornes,
oui,
10 kilomètres.
Mais là,
aujourd'hui, il n'est pas venu en vélo. Bon, merci à Damien Béchiot, merci à Flavie pour son intervention tout à l'heure. Et Flavie va revenir dans une seconde, c'est à elle. À demain.
Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RT.